Bonjour.
bonjour.
Oui, c'est ça. Cette semaine, dans le fond, nous autres, on avait pensé à faire G comme global, parce que dans le fond, c'est un peu le thème du 1er mai cette année. Et puis, dans le fond, c'est ça, on voulait parler un peu de la situation globale, parce que c'est ça. Quand on pense aux mobilisations qui ont lieu à Montréal, on remarque fréquemment qu'elles s'adressent au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral, parfois même au municipal. Mais toutefois, tu sais, les enjeux internationaux sont énormes. Les enjeux internationaux ont des conséquences énormes sur nos vies quotidiennes. C'est important de penser à notre dépendance à l'international. Parce que, par exemple, la production industrielle, la production des différents biens de technologie qu'on a provient de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Par exemple, la production de textiles vient des pays asiatiques, la production des minéraux vient de l'Amérique du Sud, la production de minéraux vient de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et puis, en tant qu'anticapitaliste, on essaie d'aller à la source des problèmes fréquemment pour avoir un discours radical. Et puis, concrètement, ce qu'on fait, c'est d'essayer de réfléchir à où ça vient, puis quels sont nos problèmes économiques, puis sont causés par quoi. Et puis, concrètement, si jamais on veut aller à la source, il faut aller voir où c'est que c'est produit, comment c'est fait, tout ça. Et puis, on se rend compte rapidement que la plupart des choses, c'est plus le confort que certaines personnes peuvent avoir en Amérique du Nord, est souvent lié une main-d'œuvre qui est disponible pour beaucoup moins cher ailleurs. Alors, concrètement, quand on fait des revendications ici localement, c'est important de penser un peu aux conséquences globales de la chose. Puis, c'est ça, je vais parler un peu des différentes façons dont j'ai réfléchi à ça. Dans le fond, c'est ça, ce qui est important de penser, c'est que les phénomènes qui sont liés à la mondialisation, par exemple, les phénomènes de déplacement des industries vers des secteurs différents se sont passés aussi au Québec. Tu sais, on oublie tout le temps ça, tu sais, mais dans les années 20, dans les années 30, je veux dire, il y avait beaucoup d'industriels anglais, des industriels états-uniens, genre qui se déplaçaient leurs entreprises vers le Québec, justement parce que il y avait une population qui était disponible pour moins cher. Et puis quand on se demande pourquoi il y avait une population qui était disponible pour moins cher, on se dit parce que dans le fond, les travailleurs et travailleuses qui étaient présents en Angleterre puis aux États-Unis, c'était beaucoup plus syndiqués que nous à cette époque-là. Et puis c'est justement pour ça qu'à Trois-Rivières ou à Drummondville, c'était facile d'aller chercher de la main-d'œuvre qui n'était pas encore organisée, qui n'avait pas encore développé cette chose-là. Puis, en plus de ça, tu sais, quand on y réfléchit, c'est que c'est une couche d'exploitation qui se rajoute à une exploitation qui était déjà là, parce que concrètement, on était en train d'occuper des terres autochtones qu'on avait prises, dans le fond, nous avaient été données par les autorités en place qui ont immigré ici. Et puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, il faut penser que les différentes couches d'exploitation se produisent et puis s'accumulent sur le territoire, dans le fond, pour être capable de créer de plus en plus d'injustices. Et puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est le problème avec la mondialisation, comme on le voit présentement, tu sais, comme on a vu avec l'ASLEA, l'ALENA, et puis ces différents accords de libre-échange. Concrètement, ça a déplacé la production vers les pays, vers le Mexique essentiellement, avec l'ALENA. C'est ça, tu sais, je veux dire, il y a eu un déplacement de la main-d'œuvre, il y a toujours un déplacement vers des pays qui sont de plus en plus pauvres. Fait que, tu sais, jamais on essaie de réfléchir au syndicalisme et puis créer des conditions de travail puis d'égalité pour chacun, chacune sur la planète. Il faut se dire que tant qu'il va y avoir quelqu'un qui va être plus pauvre que nous autres, qui va être prêt à travailler pour moins cher que nous autres, il risque d'avoir la nécessité, les entreprises vont voir que c'est possible pour eux autres d'aller exploiter quelqu'un. Fait que c'est vraiment important que nos mouvements puis que nos luttes, ils laissent personne derrière. Puis personne derrière, ça veut dire vraiment personne, parce que comme nous autres, présentement, on est rendu au sommet de la chaîne économique, sommet de la chaîne alimentaire économique, dans le fond, tu sais, je veux dire, avec les années, on s'est syndiqué, on a pris la place en Amérique du Nord, qui nous revenait, la place qui, dans le fond, qui était là pour nous, qu'on a fini par prendre. Et puis concrètement, présentement, on bénéficie des pays, de pays qui sont victimes, genre, du développement économique. C'est ça, tu sais, concrètement, si jamais on améliore nos conditions de travail à nous autres, c'est toujours aux dépens des autres. Et puis, c'est important de penser aussi que localement, concrètement, c'est que les personnes qui sont le plus victimes de violence puis de discrimination se retrouvent systématiquement au bas de nos échelles salariales. Par exemple, si jamais on fait le lien avec les femmes, tu sais, présentement, les femmes au Canada gagnent 78% du salaire des hommes. Si jamais on regarde les femmes migrantes, par exemple, elles gagnent 78% du salaire des femmes blanches, des femmes qui sont nées ici. Concrètement, ça fait que il y a une espèce d'hiérarchisation, et puis il y a toujours une forme d'exclusion, et puis ces différentes formes d'exclusion-là, on les voit de manière très active dans le secteur du travail, et puis on voit que, dans le fond, il y a toujours une compétition entre les personnes qui sont les plus privilégiées et les moins privilégiées, qui fait que systématiquement, c'est tant qu'il y a des personnes qui sont plus faciles à exploiter, ben nos conditions de travail vont se dégrader parce que des gens qui vont être capables de faire le travail à la pige. Quand on regarde par exemple le phénomène Uber, il y a des gens qui travaillent pour beaucoup moins cher, qui travaillent à la pièce, avec Airbnb qui fait de la compétition aux travailleurs, travailleuses des hôtels qui se sont battus fort pour être capables de syndiquer. Et puis là, désormais, il y a des gens qui offrent leurs pièces qui sont excédentaires dans leur logement pour beaucoup moins cher. Mais ces gens-là sont pas de mauvaise foi. Faut pas dire les méchantes personnes sont en train de faire de la concurrence illégale avec des gens syndiqués, mais il faut plutôt réfléchir à pourquoi ça se produit, pourquoi nos luttes systématiquement se retrouvent toujours limitées dans un cadre, et puis pourquoi on se retrouve toujours dans une situation où il y a des gens qui sont plus marginalisés, qui ont plus de difficultés, qui se retrouvent toujours à être obligés d'accepter des conditions de travail. Puis, c'est, dans le fond, un enjeu qui est vraiment important. Puis, pour nous, genre, qui nous amène un peu à une critique du capitalisme. Et puis, c'est ça, dans le fond, l'important, c'est de penser toujours au tenant et aboutissant de nos demandes, et puis d'essayer de penser à qui est le plus discriminé, qui est le plus marginalisé dans notre société. Et puis, c'est pour ça, dans le fond, qu'il faut réfléchir à ce que ce soit toujours la bourgeoisie qui finisse par payer pour nous et non pas parce que eux autres, ils en ont de l'argent, puis il y en a une accumulation de richesses. Et puis, c'est ça, faut aussi réfléchir. Et puis concrètement, toutes ces répercussions sur le global, toutes les répercussions du global qu'on voit sur la situation actuelle, bien, ça s'incarne beaucoup dans le système d'immigration, puis à quel point c'est un système qui est injuste. Et puis juste pour donner quelques statistiques et puis quelques indications, bien, dans le fond, c'est ça, le système, présentement, les réfugiés qui essaient d'être admis au Canada, il y a un taux d'acceptation qui est de 33%, ce qui est très faible. C'est ça. Et puis, étrangement, ce que ça fait, c'est que le système d'immigration, ça devient une espèce de système dans lequel les personnes qui migrent ici ou qui viennent essayer d'avoir un statut de réfugié se retrouvent dans une situation temporaire, qui viennent travailler, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Et puis, concrètement, quand ils ont passé cette période-là, et puis dans cette période-là dans laquelle ils sont en attente d'un statut, ben, concrètement, ils n'ont pas le droit aux programmes sociaux, mais ils payent pour lorsqu'ils sont travailleurs, travailleuses. Ils payent pour des programmes sociaux qui n'ont pas droit. Et puis, essentiellement, la majorité sont retournés chez eux. Si on regarde aussi, il y a une statistique qui est quand même intéressante par rapport à la population. À la population migrante, dans le temps, il y avait une majorité des familles qui étaient acceptées pour des raisons familiales. Essentiellement, c'était possible d'immigrer à cause qu'on avait de la famille qui habitait au Canada. Présentement, c'est moins de 20% des gens qui immigrent pour des raisons familiales. C'est ça, il y a eu une refermeture des frontières. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça, nous autres, autour du 1er mai, dans le fond, on réfléchissait à chaque année, on organise le 1er mai anticapitaliste. Et puis, dans le fond, on réfléchissait un peu aux enjeux d'actualité qui avaient lieu en cours. Et puis, on se demandait lesquels seraient les mieux, lesquels seraient les plus parlants pour la population. Parce que, dans le fond, on va toujours se retrouver à s'attaquer à des capitalistes. Et puis, c'est ça, tu sais, on se demandait, tu sais, quel enjeu utiliser pour montrer les contradictions du système capitaliste. Et puis, avec les enjeux migratoires, avec les enjeux qu'on voit présentement avec les populations syriennes, tu sais, qui essaient de se trouver une place où être, parce qu'il y a eu une exploitation, mais tu sais, je veux dire, des années, genre d'exploitation dans le secteur. Et puis, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, on s'est dit que ça allait être une bonne idée d'organiser notre manif sous le thème contre l'impérialisme, contre le racisme, les frontières et le colonialisme, ensemble détruisons le capitalisme. Et puis, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir deux points de départ. Ça va avoir lieu le 1er mai, c'est-à-dire c'est un dimanche cette année. Ça va avoir lieu à 3 heures. Et puis, dans le fond, il y a deux points de départ. Il y en a un que c'est à l'entrée de l'Université McGill, aux portes sur Sherbrooke. Et puis l'autre, c'est au Square Phillips. Fait que c'est ça que j'avais pour vous